Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Aujourd'hui, les auteurs laissent la place à leurs lecteurs et je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui donc trois lectrices qui viennent d'une classe de première L du lycée Saint-Joseph à Toulouse. Emma Bourguignot, Jessica Queneau et Lisa Razami, accompagnées par leur professeur de français, Laure Théron. C'est d'ailleurs Laure Théron qui leur a proposé la lecture du roman de Laurent Godet, Eldorado, roman écrit en 2006, mais dont le sujet malheureusement reste d'une actualité très brûlante. Et c'est de ce livre, bien sûr, dont nous allons parler. Bonjour et merci à vous d'être venus. Et alors nous allons parler de Laurent Godet. On peut parler déjà de sa courte biographie. Enfin, il est jeune, hein, mais on va faire court. Est-ce que Lisa pourrait nous lire, peut-être nous parler de Laurent Godet?
Oui. Alors, Laurent Godet est né en 1972 à Paris et a été élève de l'école alsacienne. Après maîtrise de lettres à l'université Paris 3. Il obtient un DEA à la même université où il fait également des études théâtrales. Il se consacre tout d'abord à l'écriture théâtrale et en 1997, à 25 ans, il publie sa première œuvre. Il se consacre tout d'abord à... En 2002, il obtient le prix Goncourt des lycéens et le prix des libraires avec La mort du roi Tsongor. En 2004, il est lauréat du prix Goncourt pour Le soleil des Scorta, roman traduit dans 34 pays. Il est aussi auteur de nouvelles, d'albums pour enfants et de scénarios. Il a fait également plusieurs reportages en Haïti, après le tremblement de terre, dans les camps de Kawergosk, au Kurdistan irakien, qui accueille 10 000 réfugiés syriens. Un reportage sur Nino Di Matteo, procureur de Palerme, engagé dans la lutte contre la mafia depuis plus de 20 ans et condamné à mort par Cosa Nostra.
Alors, merci Lisa, double merci parce qu'elle n'avait pas lu le texte auparavant, donc bravo de l'avoir lu avec autant de spontanéité qui plus est. Alors, donc, vous connaissez Laurent Godet puisque vous avez travaillé sur son ouvrage. Vous savez qu'il a eu le prix Goncourt, Alors, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il n'a pas eu de prix pour cet ouvrage Eldorado. Et je trouve que c'est dommage. Apparemment, il a eu le prix Goncourt pour Le soleil d'Escorta, mais pas pour celui-ci. On peut parler donc de ce livre en disant que c'est quand même un livre qui a été écrit en 2006, mais qui est toujours d'actualité. J'évoquais hors antenne un reportage à la télévision française sur l'Aquarius, un bateau qui repère les bateaux pneumatiques en Méditerranée et qui recueille les hommes, les femmes, les enfants qui sont à bord. Un documentaire très poignant, très édifiant et qui fait écho à ce que nous lisons ici. Alors, on peut peut-être parler du résumé de cet ouvrage pour pouvoir ensuite en discuter. Alors, Jessica, peut-être, voilà.
Oui.
Alors, un petit résumé.
Il s'agit du drame des migrants clandestins qui risquent leur vie pour échapper à la misère de leur pays, à la maltraitance et qui n'ont d'autre choix que de s'adresser à des passeurs véreux et sans scrupules. Ici, l'action se passe en Méditerranée, où des Africains n'ont qu'une idée en tête, se rendre en Europe qui représente pour eux leur Eldorado. À Lampedusa, le bateau du commandant Salvatore Piracci recueille les réfugiés en perdition en mer pour les remettre aux autorités italiennes. Après avoir rencontré et écouté une jeune immigrée dont le fils est mort durant la traversée de la Méditerranée, le commandant réalise que sa vie est vide de sens et décide de tout quitter, faisant le chemin inverse de celui des migrants. Parallèlement, deux frères essaient de fuir la misère et de rejoindre l'Europe qu'ils croient être leur Eldorado. Seul le cadeau, Soleiman, va affronter d'innombrables dangers, découvrant la faim, la peur, la honte, mais aussi la solidarité.
Voilà, merci. Alors, donc, c'est un livre dont le sujet... Comment avez-vous trouvé le thème, déjà, Emma?
Plutôt d'actualité, avec tout ce qui concerne les migrants, même aujourd'hui, comme avant, en fait, tout simplement.
Oui, c'est comme vous dites, c'est d'actualité. Il y a autre chose à ajouter? Non. Non. Bon, la manière dont a été construit le roman, Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Comment avez-vous trouvé cette construction?
C'est une alternance entre la vie des deux frères et de Salvatore Piracci.
Oui.
Ainsi que de la femme.
Et
un court extrait de la vie de cette
femme. Dans le micro, Emma. Oui, effectivement, on parle de la femme, cette femme du...
Qui a perdu son enfant.
Voilà, mais qu'on perd de vue ensuite, hein, oui. On ne la retrouve pas.
On ne saura jamais ce qu'elle sera devenue.
Oui.
Et si elle avait accompli l'acte ou pas.
Donc, alternance, est-ce que vous avez trouvé que c'était un récit très vivant?
Oui,
ça dépendait des moments. Pour ma part, moi, ça m'a vraiment déroutée au début. J'étais au tout début, j'étais avec Piracci, et puis après, tout d'un coup, je me retrouve avec quelqu'un d'autre qui parle à la première personne. J'étais très vraiment déroutée, et ça m'a fait vraiment bizarre de me trouver avec une autre personne, une autre histoire, alors que je m'étais déjà habituée à l'autre personnage où le narrateur était extérieur à l'histoire.
En même temps, justement, ça apporte un regain d'intérêt.
Un regard nouveau, oui, mais je m'étais habituée, je m'attendais à ce que... Je n'avais pas lu le résumé avant de lire le livre, parce que je voulais me garder la surprise.
Donc tu étais perdue.
Et du coup, j'étais perdue.
D'accord. Emma?
J'ai trouvé ça poignant parce que en fait ça se passe en même temps, et donc je trouve ça intéressant de voir d'un côté l'homme qui arrête les gens qui essayent de passer en Europe, et en même temps on a le récit d'un frère qui essaye à tout prix d'atteindre l'Eldorado.
Alors moi j'en étais encore à la manière dont a été construit le roman. Est-ce que le fait qu'il y ait beaucoup de dialogues finalement, ça vous a gêné ou pas?
Non, du tout. Même je trouvais que ça donnait un certain rythme à l'histoire, et que du coup on ne s'ennuyait pas du tout lors de la lecture.
Oui. Et les thèmes? Alors quel thème avez-vous trouvé là-dedans? Il y en a peut-être plusieurs. Le thème central, bon, on le voit.
Ensuite, la famille.
Pas réellement, je trouve.
C'est beaucoup centré sur la famille, sur le fait que
la
mère, elle perd son enfant. Les deux frères, moi je trouve que c'est vraiment aussi centré sur la famille.
Non, parce que c'est vraiment qu'au début, pour ma part, que c'est la famille. Et après, c'est plus un renouveau de la personne, pour moi. C'est par exemple le fait que Souleymane il décide de partir, vraiment de ne pas retourner chez lui, c'est un renouveau pour lui, malgré qu'il n'ait pas envie de partir. Et le commandant qui veut une nouvelle vie, veut quelque chose de nouveau. Il ne supporte plus ce qu'il est, il veut abandonner ce qu'il est là au début du livre.
D'accord. Alors deux points intéressants, parce qu'effectivement il y a quand même l'abandon de la famille, hein, finalement la séparation de la mère de son enfant, le frère qui quitte sa mère et qui quitte son frère. Est-ce que vous voyez d'autres thèmes sous-jacents, le thème principal étant évidemment la condition des immigrés, des migrants clandestins? Est-ce que vous avez vu autre chose ou pas?
Eh bien l'amitié, enfin c'est une sorte d'amour, mais l'amitié puisque Bakar et Souleymane sont devenus complices d'une certaine manière, et j'ai trouvé ça vraiment touchant. Et puis dès leur rencontre, j'ai plus ou moins un peu ricané, on va dire ça, non, gloussé, c'est le meilleur terme, parce que comme Souleymane s'était fait frapper par les passeurs, et le fait que son compagnon boitait et qu'il avait fait une remarque assez drôle là-dessus, et ben j'avais trouvé ça vraiment intéressant.
C'est dans le fond, c'est le premier acte d'humanité que l'on trouve là,
oui.
Quand vous, justement, Lisa, vous avez parlé de départ du commandant du navire, départ de ce frère. C'est quoi? Ils sont poussés par quoi, en définitive?
Ils recherchent la vraie vie. Ils recherchent
par la recherche de soi, je dirais. La recherche de soi. Au début, surtout pour le commandant. Après. Je pense que c'était pas l'objectif premier de Souleymane, mais par la suite, je pense que il s'est trouvé en voyageant, d'une certaine manière. Je saurais pas réellement l'expliquer.
Il a évolué.
Il a évolué, il a grandi, il a mûri, comme tu le dis, Emma. Donc du coup, au final, c'est vraiment la recherche de soi, d'un nouveau nous, en fait.
Vous êtes d'accord ?
Oui.
Oui, oui, oui. Alors, si je comprends bien, donc le commandant Salvatore, lui, il part à la recherche de soi. Peut-être il se cherche un but, une raison de vivre, non ? C'est ça aussi, non ? Oui. Comment le voyez-vous, ce commandant ?
Il veut aller au début, il est gardien de la citadelle et il va
de la citadelle ?
La citadelle de Lampedusa.
Oui, Lampedusa. Oui.
Et il va à la rencontre des gens qui se lancent vers l'Europe. Et après, il veut chercher la lumière d'espoir qu'apportent les gens d'Afrique. Il veut, en fait, il aimerait avoir cette étincelle d'espoir qu'il n'a pas. Il a dit.
D'accord. Oui. Il le dit effectivement à un moment donné. Hein, il dit que bon ben lui il n'a rien. Il est, je ne sais pas. Je l'ai noté quelque part.
Il dit qu'il se sent vide, qu'il a aucune aspiration et qu'il aimerait rechercher cette lumière d'espoir.
C'est qu'il avait au début quand il a commencé son métier.
Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup il laisse tout ? Il y a quand même deux événements qui rendent là.
Alors il y a la femme, dès le début, il l'a laissée frustrée lorsqu'il parle à son ami, dont j'avoue je ne me souviens plus le nom, mais...
Angelo, je crois.
Oui, c'est ça. Et quand il parle à Angelo, il lui demande, qu'est-ce qu'elle a pris de moi lorsqu'elle est partie avec mon arme ?
Très bien.
Et qu'est-ce qu'elle a laissé après avoir pris mon arme? Et son ami lui répond de la frustration.
L'insatisfaction,
oui. L'insatisfaction.
C'est très bien d'avoir relevé ça, parce que je pense que c'est important, finalement, non?
Oui, et le deuxième passage, je pense que c'est...
Quand il
rencontre le jeune traducteur, l'interprète. Oui.
Et qu'il a hésité trop longtemps, trop longtemps à vouloir...
Et que du coup, c'était trop tard.
Et c'était trop tard, et du coup, il a frappé le...
Libyen.
Le Libyen qui était chargé de les conduire.
Alors, Jessica, explique ça pour nos auditeurs, parce que il a répondu trop tard à cet interprète qui demandait en fait une faveur, c'est-à-dire de ne pas être donné à la police italienne, je pense. Mais qu'est-ce qui se passe donc ensuite ?
En fait, il a hésité trop longtemps et du coup.
Il a des remords.
Il a des remords et ensuite il a cédé à la colère et il a frappé le Libyen qui accompagnait qui devait emmener à bon port les émigrés, alors qu'il les a laissés au milieu de la mer dans des canaux et du coup il a reçu une lettre pour se faire convoquer à.
Oui.
Devant les autorités, et il ne voulait ni se cacher ni y aller, donc la seule solution qui restait c'était de partir, donc il a tout laissé pour partir en barque.
Oui. Alors, vous avez parlé de cette femme, c'est la femme du Vittoria 2004, on ne connaît même pas son prénom, il me semble.
Non.
Bon, effectivement, là, ce qu'elle raconte, c'est vraiment, quasiment au début du livre, ça vous a fait quoi de lire ce passage où elle parle de leur voyage, de ce voyage, où ils partent en chantant, si je me souviens bien.
Oui. Moi, ce passage m'a fait pleurer parce que je pense que la perte d'un enfant pour un parent, c'est terrible et c'est vraiment... Je comprends son désir de vengeance, même si je ne peux pas le ressentir quand même, vu que je n'ai pas d'enfant et qu'ils ne sont pas morts, mais j'ai vraiment compris le désir de cette femme de vouloir... se venger du fait que le commandant les a abandonnés sur le bateau sans rien et voilà.
Oui. Alors justement, vous avez choisi un extrait justement qui parle de ce voyage et de la mort de cet enfant et du désespoir de la mère. On vous écoute.
D'accord. Elle serrait de plus en plus fortement son enfant dans ses bras, mais il semblait ne plus rien faire d'autre que dormir. Une femme à côté d'elle lui tendit une bouteille dans laquelle il restait quelques gouttes d'eau. Elle essaya de le faire boire le nourrisson, mais il ne réagit pas. Elle lui mouilla les lèvres, mais les gouttes coulèrent le long de son menton. Elle sentait qu'il partait et qu'il fallait qu'elle se batte bec et ongles. Elle l'appela, le secoua, lui tapota les joues. Il finit par râler distinctement, un petit râle d'enfant. Elle n'entendait plus que cela. Au-dessus du brouhaha, des hommes et du bruissement, des vagues, le petit souffle rauque de son enfant lui faisait trembler les lèvres. Elle supplia, elle gémit. Les heures passèrent, toutes identiques, sous bateau à l'horizon, sans retour providentiel de l'équipage. Rien. La révolution lente et répétée du soleil les torturait, et la soif les faisait halluciner. Elle était incapable de dire quand il était mort. Elle était restée dans la même position pendant des heures, lui chantant des comptines, l'appelant par son nom, lui jurant qu'il s'en sortirait. Puis les gens qui l'entouraient lui avaient tapé l'épaule. Elle avait vu dans leur regard ce qu'il pensait. Elle avait hurlé de la laisser tranquille, de ne pas l'approcher, qu'elle allait le réveiller. Plus tard, ils avaient essayé à nouveau, répétant qu'il ne fallait pas garder les morts sur le bateau. De quoi parlait-il ? Ce n'était pas un mort qu'elle tenait dans ses bras, c'était son enfant. Elle ne comprenait pas, et puis deux hommes étaient venus et l'avaient forcée. Ils l'avaient obligée à desserrer son emprise. Elle se défendit, elle cracha et mordit, mais ils étaient plus forts qu'elle. Ils réussirent à lui prendre l'enfant, et sans un mot le jetèrent par-dessus bord. Elle se souvenait encore du bruit horrible de ce corps aimé, embrassé, touchant l'eau.
Voilà, oui, c'est un passage poignant. Il y en a bien d'autres, mais celui-là, déjà. Comment avez-vous trouvé les mots du commandant quand Vittoria, la femme du Vittoria 2004 lui raconte ces épisodes? Comment avez-vous trouvé sa réaction à lui? Vous vous souvenez?
Oui, il réagit pas trop à mon avis. Ouais. Enfin, il est triste pour elle, mais comme il a déjà effectué ce geste envers une mère, de jeter le nourrisson décédé à la mer, il y répond avec un certain détachement, mais en même temps, il est beaucoup plus touché par cette femme que par les autres à qui il a dû faire ça.
Oui.
Donc j'avoue ne pas trop comprendre sa réaction.
En fait, il voudrait pas qu'il a, il a des mots, bon, un peu passe-partout, un peu conventionnel, confortable.
Oui. Hein. Si. Si, un peu normal, on va dire ça comme ça. Oui, normal. Oui. C'est pas sa réaction n'est pas poignante, triste. Normal.
Il cherche tout de même à savoir pourquoi elle veut une arme. Oui. Malgré, enfin, sa réaction, c'est pourquoi on voulez-vous une arme quand elle lui révèle son désir. Et là, enfin, il comprend un peu sa motivation en réalité.
Est-ce que vous avez l'impression que dans le fond, elle, c'est une sorte de messagère, quelqu'un qui va déclencher quelque chose d'important dans la vie?
Chez lui.
Ah oui, ah oui,
oui, vraiment.
C'est vraiment...
Oui. Ça fait un déclic, en quelque sorte, ouais, dans son cerveau qui va tout... Comme un mécanisme, en fait, qu'il faut juste actionner et ensuite tout commence à fonctionner et je pense que c'est son mode... C'est ce qui s'est passé dans sa tête, en
oui.
fait.
Quand il dit que eux, ce sont des blocs de volonté, que lui, dans le fond, il dit qu'il y a un vide confortable qui le dégoûte. Il est très sévère à son égard, mais finalement, bon, on peut se dire que nous sommes tous un peu comme ça, hein, non?
Oui.
Le vide confortable.
Oui.
Hein, confortable en tout cas. Hein, on voit la télévision, mais dans le fond, vous comprenez sa réaction ensuite?
Oui, il a été touché par le malheur,
la gifle des pauvres.
Oui,
la gifle des pauvres qui ouais. se révolte.
Il avait ce qui fait que, du coup, il a, malgré qu'il le voyait d'une manière assez détachée, là, il est frappé par une femme et ce qui fait que ça va vraiment changer. Enfin, je sais que quand on voit quelque chose. Pour la première fois, par exemple, je sais que j'ai déjà entendu une bombe exploser et ça m'a vraiment chamboulée. Et c'est peut-être le même effet, un effet de bombe. Ça l'a choqué, ça l'a changé et ça et quelque chose en lui est né et une autre partie est morte, est partie vraiment. Et je pense que c'est vraiment
En fait, cette femme représente vraiment un renouveau pour cet homme. Un renouveau, vraiment.
Mmh. Oui, oui. D'accord ?
Oui.
Oui, oui. Emma aussi ?
Oui, oui.
Oui, le mot renouveau, j'aime beaucoup. Nous allons faire une pause musicale. Alors, nous allons écouter un extrait, uniquement un extrait, parce que, heureusement d'ailleurs, parce que ça serait très long, de Debussy, La Mer. Évidemment, c'est bien adapté, hein.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Pas vraiment parole d'auteur, mais parole de lecteur, et je dirais même de lectrice, puisque j'accueille aujourd'hui trois lectrices qui viennent d'une classe de première L du lycée Saint-Joseph à Toulouse, Emma Bournino, Jessica Queneau et Lisa Razami, et leur professeur de français, Laure Théron. Et c'est de Laurent Godet que nous allons parler, et nous parlons de son ouvrage Eldorado, roman très, très, très d'actualité. Alors, nous avons parlé de ce commandant, on va dire Salvatore, parce que on a donné son nom de famille, mais bon, Salvatore, ça va très bien. Et parallèlement, il y a également, une autre vie que l'on suit. Alors, il s'agit de qui ? Vous vous souvenez ?
Alors, c'est Soleiman et Jamal au début. Et il se trouve que ce sont deux frères qui vont décider de partir en Europe. Et il se trouve que l'un des deux frères, c'est-à-dire Jamal, est malade. Et il part juste à la frontière pour accompagner son petit frère et pour lui dire adieu. Et on va suivre du coup Soleiman tout au long de son voyage jusqu'à la fin de son périple.
Oui, oui, oui. Et qu'est-ce que vous avez justement toute cette partie assez longue finalement où il ne se passe pas grand-chose sauf qu'il fait le tour de la ville, etc. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Vous vous êtes imaginé à sa place?
Oui.
Finalement, il n'est pas beaucoup plus vieux que vous.
Non.
Non, il a 20. Non.
Oui, une petite vingtaine d'années.
Oui.
Et
Emma,
je m'imaginais complètement, enfin à côté de lui. Quand il marchait et qu'il parlait avec son frère, je crois.
Non, son compagnon, Bakar, ouais.
son
frère,
ami, je crois, je sais pas.
Compagnon de voyage.
Voilà. Je m'imaginais totalement à côté d'eux, à les écouter parler. Voilà.
Oui, Jessica, quelle impression cela donne? Le fait il n'est pas encore parti, il fait le tour de la ville, il est avec son frère, il va voir sa mère. Qu'est-ce que vous imaginez là?
C'est deux frères qui vont quitter leur ville et ils font leurs adieux sans que les autres le sachent.
Vous pensez que c'est finalement c'est facile pour eux?
Non, horrible pour eux. Ils profitent des derniers instants, des dernières dates qu'ils mangent, de la dernière fois qu'ils voient leur mère et ils s'arrachent à leur enfance, quoi.
Oui. Oui, c'est pas si facile de quitter sa vie. C'est très bien, hein, c'est vrai, vous avez raison. Dans le fond, c'est l'enfance, c'est l'inconnu.
Mais en même temps, ils le disent, ils s'arrachent à leur vie, mais c'est eux qui l'ont voulu, donc.
Oui.
La maman, c'est un peu la personnification de l'enfance. C'est elle qui les a élevés, qui les a nourris, qui leur a appris. Ce qu'ils savent.
Et il disait, si la mère faisait la moindre objection ou se mettait à pleurer, ils n'auraient pas pu partir, il disait.
Donc, ils disent rien.
Non. À la mère, ils ne disent pas réellement quelque chose. Ils savent qu'elle l'aime et qu'ils l'aiment en retour. Et que pour elle, ce sera dur comme pour eux. Mais ils ne diront rien à propos du voyage. Ils en ont juste parlé pour dire oui, je pars, je pense, antérieurement à l'histoire. Mais après, ils en ont pas parlé sur les sentiments, sur l'abandon, parce qu'ils ne se reverront jamais. Ils le savent. Enfin, en tout cas, Soleiman, puisque c'est lui qui parle lorsque nous lisons, il sait qu'il ne reverra plus jamais sa mère.
Ils viennent d'où?
De la Libye.
Du Soudan, je crois.
Ouais, c'est
du Soudan, oui.
Soudan. C'est deux frères soudanais, ouais.
Bon, donc, ils font le tour. Et en fait, il va se passer une chose. Il part avec son frère, quand même. Donc, c'est une partie de son enfance, encore.
Oui.
Oui.
Bon, et puis là, coup de théâtre.
Il l'abandonne.
Oui. Ouais.
Jamal lui avoue qu'il est atteint du sida et qu'il lui reste pas beaucoup de temps à vivre et... Qui lui dit de continuer tout seul, alors que quand on lisait le livre, Soleiman, il était déjà en train d'imaginer que son frère, ça serait son seul réconfort, son seul confident, le seul à qui il pourrait parler de son enfance d'avant. Et là, tout d'un coup, Jamal lui dit qu'il ne continue pas le chemin.
Là aussi, vous avez compris son désarroi?
Oui.
Oui. Bon.
Il se retrouve seul.
Seul. Oui, seul. Voilà,
dans l'inconnu.
La solitude totale, dans l'inconnu. Alors, on va voir que ce voyage, c'est pas un voyage de. C'est pas une croisière, hein,
ah, non.
Ça, non, touristique.
Déjà, il va aller à la frontière avec un guide, puis il va passer. Quand son frère le quitte, il va aller avec un passeur en voiture et ce passeur va l'abandonner, va le tabasser, pardon du mot, mais c'est exactement ça. Il va le tabasser pour ensuite voler tout ce qu'il a.
En fait, la
et
voiture.
Il se retrouve complètement seul, perdu, dépouillé, humilié même. Et c'est là qu'il va rencontrer son compagnon
son
de voyage.
Alors Lisa, peut-être que je suis allée un peu trop vite parce que vous aviez choisi un extrait parlant des frères.
Oui.
Pourquoi l'avez-vous choisi celui-là?
Eh bien, en fait, c'est pas pour les frères que je le fais, enfin que je les choisis, c'est vraiment pour les derniers instants dans la ville, parce que je viens d'une famille, moi, où on a beaucoup voyagé, on a quitté beaucoup d'endroits.
Alors, je peux dire pour nos auditeurs
oui,
que vous êtes...
Malgache, je suis malgache. Et en fait, on a quitté beaucoup d'endroits, on est parti enfin, on a beaucoup voyagé.
Mais en famille, non ?
En famille, enfin, c'est un peu compliqué parce que nous sommes nombreux. Il y a les tantes, les cousins, blablabla. Et en fait, le truc, c'est que nous sommes partis, mes parents et moi, parce qu'à l'époque, j'étais encore enfant unique. Nous sommes partis, mes parents et moi, de Madagascar. Nous sommes français. Hein, nous sommes retournés en France. Mais sans nos cousins, enfin sans
toute,
les cousins.
Toute la
et
parentèle.
Plus tard, ils sont arrivés, donc c'était joyeux, on était heureux, etc. Mais d'un autre côté, je connais ce sentiment de dernière fois on va voir ça dernière fois on va vivre là. On n'est pas retourné dans notre pays, dans nos pays.
On est encore là, mais bientôt pays. Pour plus jamais. C'était ouais. Qui disait. On est là, mais bientôt pour plus jamais.
On n'est jamais retourné dans notre pays d'origine. Et en fait, ce qui fait que je comprends exactement ce que ressent Soleiman, même si je ne l'ai pas vécu puisque j'étais beaucoup trop jeune, mais je sais par rapport à ce que mes parents vivent, par rapport à leurs sentiments, que
il y a toujours
le besoin de des fois de retourner aux racines, etc.
D'accord. Alors, on le lit peut-être cet extrait.
Alors, mon frère, il n'y aura que toi pour moi et moi pour toi, plus frère que jamais. Tu seras le seul à qui je pourrai parler de la mer en sachant que tu la vois en ton esprit lorsque j'évoquerai la lenteur de ses doigts qui passaient dans nos cheveux pour nous endormir. Tu seras le seul, Jamal, à qui je pourrai dire simplement « Tu te souviens du café de Faisal ?» sans que cela te lasse. Et dès que je poserai ma question, la place entière ressurgira en toi. Et la ville derrière, avec ses bruits, sa pollution et son vacarme. Nous ne pouvons que vieillir ensemble désormais, mon frère. Je deviens fou si je te perds. Je ne veux pas voir mes fils lever les yeux au ciel lorsque je leur parlerai, pour la centième fois, du cousin de Port-Soudan. Que comprendront nos enfants à ces deux vieillards nostalgiques que nous serons devenus ? Les rites que nous leur enseignerons les ennuieront. La langue que nous leur parlerons leur fera honte. Nos habits, nos accents, ils voudront se cacher de nous, et nous le sentirons. Car il nous arrivera à nous-mêmes de vouloir nous cacher. Je ne veux pas les entendre soupirer lorsque je dirai que la menthe du jardin de ma mère était la meilleure au monde, alors que je ne leur dirai pas. Et c'est vers toi que j'irai. Toi seul seras d'accord avec moi. Ces évocations lointaines, comme à moi, te feront du bien. Nous goûterons le doux soulagement des exilés qui parlent de leur manque pour tenter de le combler. Nous vieillirons ensemble, mon frère. Promets-le-moi ou je ne vieillirai pas.
Voilà, c'est vrai que voilà un autre très beau passage sur ce besoin aussi d'avoir des liens forts avec les lieux, avec les gens, la famille. Alors, vous avez parlé de la démarche du commandant de Salvatore. Là, il va apprendre beaucoup de choses en très peu de temps, déjà, ce que vous avez évoqué. Alors, je sais pas, Jessica, on parlait tout à l'heure de ce qui s'est passé sur la plage où il a été dépouillé. Pour un jeune homme tout frais et moulu, là, de sa sortie de sa famille, qu'est-ce que vous pensez comme c'est une phase, une initiation dure, non ? Emma ?
Oui, un peu particulière, on va dire. Parce que je pense pas qu'il s'y attendait réellement. Je pense pas qu'il s'attendait à être agressé à son arrivée, en fait. Je sais pas comment expliquer ça.
Il est arrivé au milieu de nulle part. Soleiman.
Oui, et puis il n'avait peut-être pas encore la connaissance du mal. Ça, c'est quand même ce qui se passe, c'est le mal à l'état pur, à l'état brut.
Oui, il a l'air, au tout début, il a l'air vraiment très innocent.
Oui, oui.
Très exactement. Naïf. Il pense que ça va aller de soi, que son frère va rester avec lui, que malgré tout, ils trouveront quelqu'un à aimer, qu'ils auront des enfants, puis des petits-enfants. Et ça donne une image très très naïve de Soleiman dès le début.
Qu'on peut être à cet âge-là, non ?
Moi je pense, je trouve pas, parce que je suis aussi naïve que lui, je m'attendais pas non plus à ce que les hommes
puissent agir,
puissent emmener tous ceux qui ont payé avec de l'argent dans un endroit isolé.
Oui.
Les tabasser pour certains et leur prendre tout ce qu'ils ont. Les abandonner comme des animaux. Mais
c'est pas non plus de la naïveté, c'est ses rêves en fait, tout simplement, qu'il souhaite réaliser. Quand tu dois tout quitter, tu souhaites juste le meilleur en fait, tout simplement, je pense.
Alors, il y a la rencontre à Gardaïa, il y a quelque chose d'assez extraordinaire, parce que cette ville c'est entre le sud et le nord de l'Algérie, et tout se joue là. Moi j'ai eu cette impression, à savoir que y a les deux personnages vont se rencontrer là. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est pas un peu étonnant, non?
Ben, c'est souvent dans les livres où on a le récit de deux personnes à deux endroits du monde qui font le récit de leurs aventures, et souvent dans ce genre de livre, ils se rencontrent.
Sans le savoir.
C'est incroyable.
Souvent,
oui.
Aussi.
Oui.
Sans
le savoir.
Oui.
Ouais.
Alors, qu'est-ce qui fait que à partir de là, quand même, leurs chemins vont avoir un sens, non? C'est pas, non, vous n'avez pas ce sentiment, non? Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que vous avez vu quelque chose d'un peu particulier? Non? Pas vraiment? Je ne veux pas vous poser une colle, hein? Bon. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, il y a un personnage qui n'existe pas qui apparaît, qui Massambalo.
Le dieu des émigrés,
ouais, oui,
et des émigrés. Salvatore, il va se faire passer pour lui.
Oui.
Et ça sera la seule chose à quoi il aspire à la fin. Il veut juste.
Alors qu'au début, qu'est-ce qu'il disait en parlant, et qu'est-ce qu'il leur disait à ces émigrés?
Bah, au début, il était le visage
de l'autorité,
de l'échec. Voilà.
Exact.
Il était le visage de l'échec,
oui,
et du coup il veut devenir le visage de l'espoir, même s'il sait que arriver en Europe c'est presque impossible.
À votre avis, c'est pas une forme de conversion, ça? Parce qu'à un moment donné,
si,
il veut leur dire la vérité, non, n'y allez pas, etc. Puis tout d'un coup, non? Qu'est-ce que vous en pensez?
Si, c'est une sorte de conversion presque, presque religieuse à mon avis.
Mmh, oui. Il leur donne l'espoir.
Il donnait, je pense, une image de désespoir. En fait, c'est fini. Et pour eux, et là, cette reconversion, ce changement, c'est vraiment une remise en question de soi, je pense.
Oui. Oui. Oui, certainement.
Il disait, comment est-ce possible que dans la même vie, on ait deux vies antisémiques ou nomiques?
Antinomiques.
Antinomiques.
Oui,
il disait, comment c'est possible d'avoir dans cette vie deux vies antinomiques, parce que il a passé 20 ans à être gardien de la citadelle de l'Europe, et maintenant, il fait complètement l'inverse. Il va à l'encontre de ceux qui veulent aller en Europe.
Il les encourage.
Il change de chemin.
Ouais. Mais alors, l'Eldorado, selon vous, c'est quoi, en fait?
Pour les deux,
c'est un peu différent peut-être, mais enfin, pas vraiment. Comment vous voyez l'Eldorado, vous savez, hein, c'était la recherche de l'or à une époque.
Bon.
Et là, l'Eldorado, c'est évidemment, le terme est symbolique. Qu'est-ce que c'est selon vous? Est-ce qu'ils l'ont trouvé, l'Eldorado, finalement?
Ben non, pour les gens qui n'ont rien, ils pensent que l'Eldorado, c'est ici, là où on est, mais en fait, comme disait Salvatore, ici, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'espoir.
Il n'y a pas tout ce qu'elle cherche.
Vous êtes toutes les trois d'accord, il n'a pas trouvé l'Eldorado?
Si, il l'a trouvé.
Il l'a trouvé à l'intérieur.
À l'intérieur. Pour lui, l'Eldorado, c'était
pour
son changement de personnalité.
Ah, pour Salvatore, oui.
Oui.
Mais pas pour...
Moi, je pensais à Soleiman.
Il
l'a pas trouvé,
je pense, à l'intérieur de lui.
Le fait qu'il soit devenu mature. Le fait qu'il ait changé, qu'il ait évolué tout au long du chemin, le fait qu'il ait parlé avec quelqu'un qui voyageait depuis 7 ans quand même, il faut le souligner, son compagnon de voyage depuis 7 ans, depuis le fin fond de l'Afrique pour aller jusqu'au Maroc.
Et qu'il a aidé, et que lui a aidé aussi.
Oui, il a autant aidé qu'il a assisté, parce qu'il est boiteux, mais son compagnon de route l'a aidé spirituellement, je trouve.
Oui.
Et ce qui fait qu'au final, même s'ils arrivent à passer la frontière à la fin, et c'était pas tellement ça.
Ils ont fait quelque chose.
Ils ont
agi.
Ils ont agi. d'une manière d'une remise en question. Voilà, c'est vraiment ce qui me revient à moi quand je pense au livre.
Oui, oui. Et est-ce que pour vous, Salvatore a trouvé son Eldorado ?
Oui.
Je pense.
Oui, parce que tout ce qu'il voulait, c'était représenter l'espoir pour toutes ces personnes.
Oui, oui, vous êtes d'accord ? L'espoir, oui, et la foi, ils croient en quelque chose finalement, en finale.
Mais ils ont, enfin, je pense que c'est difficile d'avoir un but dans la vie si on ne croit pas en quelque chose.
Oui, c'est ça. Oui.
Donc je pense que le fait de croire en lui, bah, ça leur donne de l'espoir et ça leur donne un but dans la vie, je pense, en quelque sorte. C'est pas non plus tout basé sur le fait de croire en quelque chose, mais,
oui, c'est sûr.
Mais ça les amène à vraiment à se chercher un but, je pense, une destinée.
Oui, ils ne sont pas, voilà, ils ont agi, mais bon, je crois quand même que ce n'est pas un livre négatif, finalement.
C'est un message d'espoir.
Ouais.
Oui,
je pense, oui.
Ouais.
Et
c'est pour pas perdre, pour se regonfler
le
de courage.
De l'homme, c'est d'avoir de l'espoir, c'est ce qui fait notre différence avec les animaux.
Alors là, ça sera un autre chapitre pour la prochaine fois. En tout cas, alors, Emma, Jessica, Elisa, un grand merci en tout cas pour votre lecture. Et oui, alors il y avait un texte à lire, je suis désolée Jessica, c'était un texte sur justement le franchissement d'un mur. Mais on n'a pas le temps. Ah. Voilà. Alors la prochaine fois, je vous attends. Un grand merci. Je répète donc que nous avons parlé du livre du roman de Laurent Godet, Eldorado, et j'encourage tous les auditeurs qui ne l'ont pas encore lu de le lire. Il est encore et toujours d'actualité. Donc, merci, au revoir.
Merci.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.